Les matinales de Radio MDM en période de confinement, ça donne des confinales. Et depuis le début de la semaine, on fait résonner sur nos ondes les voix que vous retrouvez traditionnellement dans les différentes émissions de nos passionnants producteurs, animateurs. Ainsi donc, quel plaisir d'être avec au téléphone Pierre-Brice Lebrun. Bonjour Pierre-Brice.
Salut Jeannot, bonjour tout le monde.
Alors, comment ça va Pierre-Brice? J'attaque fort, hein, t'as vu la question là,
c'est... Oui, vas-y, attaque. Ouais, écoute, j'attaque. Ça va bien, moi je suis bien là en fait.
Ouais.
J'ai conscience d'être assez privilégié, d'être confiné dans une maison avec jardin. J'ai plein de copains à Paris pour qui c'est extrêmement difficile avec des enfants dans des petits apparts, mais là très franchement, ouais. Tu parlais du drive tout à l'heure à Saint-Roch, ouais. on peut retrouver les produits qu'on aime, on est bien, voilà. Mmh. Donc ça ouais. va bien.
C'est un petit peu l'écho qu'on a hein, depuis le début de la semaine, quand on téléphone autour comme ça de nos potes. Alors c'est vrai que tout le monde n'est pas la même enseigne, même sur les Landes, mais de façon générale, on est quand même relativement privilégié, Pierre-Brice.
Le marché ouais, Saint-Roch... Après, il faut faire ouais. face aux problèmes économiques. Quoi,
ouais. hein, oui, oui,
moi, je suis travailleur indépendant, et il y en a beaucoup, on est quelques centaines de milliers en France, à ouais. se retrouver dans une situation... financière délicate, mais sinon, comme il n'y a quand même pas que l'argent dans la vie, loin de là, et ben ça va.
Comment se passent tes journées, Pierre-Brice? Alors tu bosses, dis-moi, tu fais comment?
Oui, bah j'ai l'habitude, moi, de, enfin mon activité professionnelle me pousse à bosser beaucoup à la maison, donc j'ai un peu l'habitude, je suis pas totalement dépaysé. Donc j'écris, je vais presque rattraper une partie de mon retard endémique avec les éditeurs chez qui je publie, donc j'écris assez vite. On a inauguré avec plusieurs écoles et plusieurs boîtes de formation, des formations à distance, donc en visioconférence. C'est assez rigolo, plutôt que d'être dans l'amphi, d'être dans son salon et de parler à son écran d'ordinateur. Mmh. Voilà, donc c'est une nouvelle forme d'activité. Voilà, donc je m'occupe, et puis alors je jardine, je fais à manger, je cuisine.
Ouais. Oui, Romain, recadrer peut-être le décor pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, Pierre-Brice Lebrun, donc c'est aussi l'émission dans Mon Palmier sur Radio MDM, on va parler chansons françaises ici quelques minutes, et puis sont aussi la publication d'ouvrages réguliers, notamment autour de l'univers de la mangeaille, des papilles, mais pas que, hein, Pierre-Brice.
Mais pas que, parce que malheureusement, la gastronomie nourrit pas son homme, c'est un paradoxe que je trouve profondément injuste. Et donc, du coup, j'ai un vrai métier à côté de ça. Je suis prof de droit, mm-hmm. prof de fac sur Paris, sur Montpellier. Et donc, j'écris des livres de droit, des articles de droit, je fais des conférences de droit. Voilà, classique, quoi. Je passe d'une vie à l'autre. C'est assez rigolo, d'ailleurs, de passer de la vie d'auteur comme ça, gourmand, culinaire, ouais. à prof de droit. Ça fait beaucoup rire mes étudiants, en général.
Ouais, parce que tu marrant. Le dis, tu le signales évidemment, plusieurs vies dans le monde, Pierre-Brice. Non, tu le dis pas?
Mais écoute, non, je le dis pas, mais eux le savent. Ouais. Et donc, quand je commence à leur casser les pieds avec des cours trop chiants ou trop longs, ou voilà, il y en a un qui me demande ce qu'il doit boire avec un poulet au mori ou comment je ferai un gratin d'aubergine, ou voilà, ça sort. Et ce qui est rigolo, c'est que dans l'univers de la gastronomie, on m'appelle plutôt pour des questions juridiques. Donc, un problème de contrat, de machin. D'accord. C'est assez marrant, en fait. Ouais. Les vies se télescopent en permanence, c'est assez drôle.
Ouais. Pierre-Brice Lebrun sur Radio MDM, ton dernier passage radio, c'était sur France Inter, c'est ça, Pierre-Brice?
Lundi matin, oui.
Ouais, t'étais lundi en direct?
J'étais lundi en direct par téléphone, évidemment, ouais. dans l'émission Grand bien vous fasse d'Ali Rebéi.
Ouais.
Et voilà, je suis l'auteur gourmand de service.
Ouais.
Et là, on parlait des pommes, ce qui n'est pas spécialement ma spécialité, ou alors sous forme liquide, les pommes. Et sinon, on a parlé les fois avant de pois chiches, de pâtes, de pommes de terre, de frites.
Faut dire que la radio, Pierre-Brice, c'est un média qui te passionne. On a eu l'occasion, quand on se croisait, notamment du côté du marché Saint-Roch, de l'évoquer un tout petit peu ensemble. J'aimerais bien que tu nous racontes un petit peu ton rapport à la radio et les aventures magnifiques que tu as vécues avec ce média.
Ben, les aventures magnifiques, c'était d'abord une chance hallucinante et une succession de rencontres et un peu de hasard. Mais j'étais fan quand j'étais en troisième. De l'émission de Max Meynier, Les routiers sont sympas,
ouais.
qui était 20h30 minuit. Et donc, je passais toutes mes nuits, de 20h30 à minuit, avec le poste de radio à côté de l'oreiller. Et dans un demi-sommeil, surtout vers 11h minuit, mmh. j'écoutais l'émission. Et pour moi, c'était le voyage absolu, la liberté absolue, être routier, les camions. Enfin, voilà, j'étais dans ce truc-là. Donc, je lui ai écrit, parce qu'à l'époque, pas d'internet, pas de machin. J'ai envoyé une jolie lettre, il m'a répondu et il m'a proposé, si mes parents étaient d'accord, d'aller faire des émissions avec lui. Évidemment, j'en ai pas parlé à mes parents et j'y suis allé. Et donc j'ai fait un certain nombre d'émissions avec lui. On est devenus, je ne vais pas dire amis parce qu'il y avait, je sais pas, 20-30 ans de différence entre nous, mais j'ai dû faire facilement 15-20 émissions avec lui. C'était particulièrement sympa de voir comment ça fonctionnait quoi sur RTL. Ouais. C'était vraiment très très chouette. Et son producteur a fait partie de l'équipe qui a lancé RFM.
D'accord.
Sam Bernett, ouais. Voilà, faisait partie de l'équipe qui a lancé la radio libre RFM. Ouais. Et un jour, il m'a dit, mais puisque t'aimes ça, viens nous voir. Et donc, j'étais dans l'équipe qui a lancé RFM. On était au premier étage d'un centre commercial dans les Yvelines, Vélizy 2. Je rejoignais en mobilette avec ma 103 Peugeot. Je mettais une heure sur la bande d'arrêt d'urgence d'une nationale.
Ouais.
Et donc, j'ai fait partie de cette équipe d'RFM pendant quasiment un an avec... J'ai la chance de côtoyer un peu, pas beaucoup, Coluche, et puis tous les noms qui après sont devenus des pros de la radio. Je faisais pas beaucoup d'antennes,
ouais.
Mais il fallait caler les cassettes, tu te souviens de ce temps-là, il fallait caler les fils, il fallait ranger les vinyles, il fallait, voilà, c'était une espèce de vie de groupe assez sympa, voilà, ouais, ça a commencé comme ça.
Un petit peu de l'envers du décor de cette époque que l'on voit maintenant doré, est-ce que ça l'était? J'imagine que oui, pour toi aussi, de vivre ces moments-là, Pierre.
Alors pour moi, c'était magique, sauf qu'on avait les CRS ou les gendarmes mobiles, alors c'était une fois l'un, une fois l'autre, c'était en alternance, et on les repérait de loin, et donc on avait les CRS et les gendarmes mobiles devant le siège de la radio, dans le studio, quasiment une fois par semaine, donc on se barricadait, on a pris des fumigènes, on a pris... On a eu une fois le raid ou le GIPN ou je sais pas quoi qui est descendu en rappel le long de la façade du centre commercial pour rentrer par les fenêtres. Mmh. Sauf qu'ils sont trempés, ils sont rentrés dans la réserve à côté de je sais plus quel magasin. Mmh. Et donc c'était un peu tendu quand même. On faisait des appels à la radio et les gens venaient nous soutenir sur le parking du centre commercial. C'était assez spécial. Mais oui, c'était une époque bénie. On passait ce qu'on voulait en radio. Maintenant, RFM, ils ont des playlists et tout. Chaque animateur à l'époque choisissait ses disques. Il y avait une ambiance de colo, j'ai envie de dire, de bande,
ouais.
Avec aucun professionnel, parce que ça n'existait pas, les professionnels. Mmh. Professionnels, c'était France Inter, Europe 1, RTL, mais dans les radios libres, c'était que des amateurs débutants, quoi. Donc c'était très drôle, il fallait tout apprendre,
ouais.
Et tout inventer.
Oui. Ouais, une époque qui permettait une énorme créativité, justement, cette liberté.
Ah oui, oui. C'était de l'impro total tout le temps, quoi.
Ouais,
tout le temps.
Tu as aussi... oui, vas-y, Pierre Brice.
Non, c'est tout, c'est le petit moment nostalgie, j'ai dit, c'était très chouette.
Ouais, non, mais peut-être un jour coucheras-tu ça sur des pages, ou pas, non, peut-être pas raconter.
Ouais, peut-être, je sais pas, ouais.
Ouais. Je me suis laissé dire aussi que tu avais bien connu les relais routiers aussi, Pierre Brice, à l'époque de l'émission de Max Meynier.
Eh bien oui, parce que Max Meynier, donc j'allais passer, donc en troisième, et j'allais passer des soirées avec lui à Paris. Et puis l'idée m'est venue de passer les vacances en stop, de partir en stop pour les vacances d'été, et de ne faire que des camions, de passer de camion en camion. Et donc c'est l'été 80, oui, fin de troisième.
Mm-hmm.
Et l'été 1980, je suis parti avec le sac à dos et le sac de couchage, et mon chien qui s'appelait Gitan. Et du coup, c'était mon indicatif Sibi. Moi, j'avais pas de Sibi, mais quand on parlait de moi, c'était Gitan. Et donc, j'ai fait le Tour de France pendant deux mois, presque trois mois, parce que je suis rentré au Bahut mi-septembre, quoi.
Mm-hmm.
Après avoir pris une douche, quand même. Et pendant trois mois, j'ai fait le Tour de France dans tous les sens, avec uniquement des camions,
ouais.
Qui se refilaient le paquet. Donc, en Sibi, ils disaient 44 stations, je laisse Gitan à tel endroit. Et il y en a un qui disait que je prends. Et, donc, je savais jamais où j'allais.
Ouais.
Et il s'arrêtait évidemment dans des relais routiers où j'en rencontrais d'autres qui m'emmenaient ailleurs. Les relais routiers souvent m'invitaient à manger.
Ouais.
Parce que tous les soirs, je passais sur RTL dans l'émission de Max Meynier en disant « Aujourd'hui, j'ai été pris par Titi qui m'a emmené chez Brigitte et puis on a mangé un cassoulet et puis maintenant je dors chez Robert. Voilà. » C'est assez rigolo.
Ouais, la mascotte à ce moment-là de l'émission de Max Meynier.
C'était là, oui, j'étais la mascotte. Il y a des routiers qui... Enfin, j'ai vu en routier il n'y a pas longtemps, je lui ai raconté l'histoire, il me dit « mais je me souviens très bien de tout ça. »
Ouais. Dans l'univers des
routiers. C'était magique aussi.
Ouais, j'imagine. Et puis, pour le coup, une raison supplémentaire d'illustrer la magie de la radio aussi, forcément. Hein,
c'est possible. Parce que là, cette émission, tu vois, de Max Meynier, elle avait une originalité par rapport à ce qu'on entend aujourd'hui sur les chaînes un peu nationales. C'est que Max Meynier, il parlait avec les gens qui écoutaient.
Mm-hmm.
C'est-à-dire qu'en fait, c'était pas une interview où deux personnes parlent entre elles ou trois personnes débattent, ce qui parfois est passionnant.
Ouais.
Sauf que là, Max, il parlait avec ses auditeurs, c'était extrêmement interactif avant l'heure.
Mm-hmm.
Ils appelaient pour laisser des messages, ils appelaient pour dire bonjour, lui demander des nouvelles. Et donc, tu avais l'impression, quand tu l'écoutais, qu'il te parlait à toi et à tes potes.
Ouais.
Et d'ailleurs, tous les camions à l'époque avaient l'autocollant, les routiers sont sympas.
Oui.
Et Max Meynier était un dieu pour les routiers. Enfin, c'était une star. Rien que le nom de Max Meynier t'ouvrait toutes les portes de relais routiers. Quoi.
Ouais,
C'était vraiment,
il est parti, Max Meynier, il est décédé,
il est décédé, ouais. Malheureusement, ouais, en 2000, je crois 2006, où il a eu une transplantation du cœur, ouais. Il a écrit un livre pour raconter, mais il n'a pas vraiment survécu. Après, il a développé un cancer, il est parti très très vite.
D'accord. L'interactivité au programme, message qui vient de m'arriver, ma meilleure conférence sur la patate, c'est grâce à Pierre Brice Lebrun, et c'est signé Fred Méhoul, et c'est mon sauveur, rajoute-t-il. Voilà, donc
tu racontes n'importe quoi.
Voilà, alors, t'entends, Fred ?
La meilleure conférence sur la patate, il en a fait qu'une, donc c'est forcément la meilleure.
De quand date, Pierre Brice, cette passion pour la chanson française?
Toujours, et sans raison, en fait. J'ai toujours préféré les chanteurs français. Quand j'étais gamin, j'écoutais Maxime Le Forestier, que mes parents n'écoutaient pas d'ailleurs. Enfin, mes parents n'écoutaient pas de musique dans mon souvenir, ou très peu. Et donc j'ai accroché d'abord avec Maxime. Dans mon souvenir, le premier, c'est Maxime Le Forestier, Brel. Ouais. Et ensuite, j'ai découvert Renaud. Au tout début, et puis après les autres sont venus, mais j'ai toujours été plutôt attiré, puis téléphone évidemment, ouais. Ça a passé tout à l'heure, là, ouais. Téléphone. Mm-hmm. Mais j'ai toujours été plutôt attiré par les chanteurs français, et c'était sur mon sac US que j'ai retrouvé il n'y a pas longtemps, puis que j'ai reperdu d'ailleurs. Les autres, ils avaient Iron Maiden, ACDC et tout, et moi j'avais que des noms français que personne ne connaissait. Mm-hmm. J'avais Buzzy par exemple, je passe parfois dans mon palmier, ou Bachung, voilà, Gilbert Lafay, Renaud de Tressan, donc des tas de gens que j'étais seul à connaître.
Oui, ouais, et puis que du coup, on découvre avec toi, parce que dans la programmation que tu proposes dans l'émission, il y a évidemment des noms qu'on connaît quand on s'intéresse à la chanson, et puis tout un tas de noms. Bah, par exemple, ce Renaud Détressant en question dont tu viens de parler, là, j'ai cru comprendre, c'était aussi un ami à toi, par exemple.
Mais c'est devenu un ami, Renaud. Ouais. Ouais. Quand j'étais ado, je suis vraiment tombé, comme on dit au Québec, en amour pour ces deux premiers disques. Il est sorti, le premier 45 tours est sorti en même temps que Goldman, quand Goldman chantait « Il suffira d'un signe ». Ouais. Et Renaud a sorti « On est comme on est ». Balade très calme, tu sais, on est comme on est. Et j'ai tout de suite été séduit par sa voix. Il a des textes que je trouve magnifiques. Ouais. Et donc j'étais un fan absolu. Et puis le hasard des réseaux sociaux a fait qu'on s'est rencontrés il y a maintenant pas mal d'années. Et qu'on est devenus, oui, assez potes, on se voit de temps en temps. Il habite à Lorient, évidemment, puisque c'est le leader du groupe Soldat Louis.
D'accord.
C'est-à-dire qu'en fait, Soldat Louis a été créé, il voulait arrêter, il a fait trois disques, Renaud en solo, et puis il a écrit pour Renaud aussi, l'autre Renaud, le Renaud tout seul, il a écrit pour Renaud, et puis il a eu l'idée de faire, pour une première partie de concert de Renaud, un one-shot avec un groupe qui chanterait des chansons de marins, et c'est pour ça qu'il écrit du rhum, des femmes, etc.
De la bière, mon Dieu.
Et de la bière, nom de Dieu. Et lâcher des caisses et martiniquais. Il voulait un truc un peu de gaudriole, quoi, si tu veux, pour l'été. Ouais. Et ça a tellement bien marché, Soldat Louis, qu'il existe toujours, qu'il tourne toujours. Renaud est guitariste sur scène avec eux depuis quelques années, et c'est lui qui écrit toute leur musique et toutes leurs paroles.
Ouais. Et ils sont passés, il me semble, il y a quelques années, du côté du Festival à tout
cœur.
Oui,
ils sont passés il y a 2-3 ans. Le hasard absolu, c'est quand j'ai vu que Soldat Louis venait à Mont-de-Marsan, j'étais super content. Mm-hmm. Donc j'ai passé la journée avec eux, parce qu'à force, je les connais un peu, c'est un groupe, c'est des gens assez sympas, vraiment, vraiment, vraiment chouettes, et puis qui, c'est des vrais à l'ancienne, quoi, qui jouent, qui chantent, ils sont, c'est leur passion, quoi.
Très éclectique aussi, quand même, ce que tu proposes aussi, malgré tout, parce que tu vas de ces années un petit peu, tu te fixes aucune limite au niveau des années, c'est quand t'as ta liberté,
non,
quoi.
Non, j'ai aucune limite, c'est un peu ma discothèque, je peux remonter, je crois que j'ai passé du Bourville il n'y a pas longtemps, puisque là il y a encore des émissions enregistrées avant le confinement, il y en a encore une qui passe demain, et ensuite ce sera des rediffs, donc je crois que j'ai passé un Bourville il n'y a pas longtemps, ou je peux remonter Piaf, tout ça, sans problème, et puis j'essaye de me tenir au courant des nouveautés.
Et oui, j'en entends parfois dans l'émission des choses toutes récentes, quoi, avec...
Il y a des choses vraiment formidables, ouais, là il y a mon coup de cœur, là il y a Yves Jamais, évidemment, qui est venu aussi et qui est un coup de cœur absolu. Il y a Leïla Ouissoud en ce moment, qui est pas très connue, mais qui fait un travail fabuleux. Il y a Pomme, qui a un peu éclaté il n'y a pas longtemps, là, explosé, aux yeux du public. Mais dont le premier disque était absolument, absolument fabuleux. On arrive à suivre à trouver des nouveaux qui sont pas forcément les plus médiatisés, mais qui font des choses vraiment très très intéressantes.
Et c'est sur les radios associatives, héritières de ces années là qu'on évoquait tout à l'heure,
oui,
avec
tout à fait.
RFM. C'est ça aussi qui est bien chez nous comme chez les autres, hein. C'est cette liberté de programmation, de découverte,
exactement,
de petits côtés artisanal mais maîtrisé quand même. Enfin voilà, il y a tout cet aspect là qui est absolument génial, quoi. C'est pas toi que je vais convaincre de toute façon.
Non, mais c'est vrai. C'est les radios libres à l'époque. Enfin, on s'est rendu compte quand les radios libres sont sorties, donc RFM d'abord et puis plein d'autres qu'on suivit, puisqu'après j'ai bossé avec Daniel Guichard sur Radio Bocal, hein, qui passait que de la chanson française,
ouais.
On s'est rendu compte qu'en fait, il n'y avait pas que Dalida, Michel Sardou, Johnny Hallyday, les gens qui ont notre âge se souviennent qu'à cette époque-là, on écoutait ce qu'on nous filait, quoi. C'est toujours les mêmes, en fait.
Ouais.
Et ils étaient censés vendre des centaines de milliers d'albums. On s'est rendu compte que Mireille Mathieu vendait quasiment rien quand le hit parade. Mais c'est vrai, hein, ouais, quand le top 50 est venu, on s'est dit, mais c'est des ventes ridicules,
mm-hmm,
par rapport à, je sais pas, La Souris Déglinguée vendait quasiment plus que Mireille Mathieu, quoi. Voilà.
Mm-hmm.
Et donc,
mm-hmm,
on s'est, il y a toute une génération qui, à ce moment-là, a explosé. Ça aurait pu continuer, et puis ces radios sont professionnalisées, la pub, l'argent. Rentrer dans autre chose, mais ouais, ça a été un déclencheur de talent fabuleux.
Et on essaie, nous comme les autres, radio, de continuer à faire ces découvertes ensemble et à les piocher comme ça, parce que du talent, évidemment, il n'y a pas de raison qu'il y a des moins qu'avant, il n'y a pas de raison que...
Et puis sans ces radios, on n'aurait pas du TFN, on n'aurait pas... Il y en a plein qui...
Ouais.
TFN a fait toute sa carrière sur des radios libres, il ne passait pas du tout sur RTL et compagnie.
Mmh, mmh.
Et à l'époque, il faut avoir en tête qu'on avait le choix entre France Inter, Europe 1, RTL, RMC. Quoi.
Ouais, ouais.
Point.
Ouais.
Et que du coup, t'étais très limité. C'était un peu le monopole, quoi. T'étais, mm-hmm, très limité dans le choix. Et ton oreille s'habituait à écouter des trucs.
Ouais, c'est ça. C'est ça, parce que plus on habitue l'oreille,
On
sait que quand on martèle un certain nombre, je crois même que c'est assez scientifique, quand un morceau passe tant de fois, il sera dans l'esprit, dans la tête des gens.
Ça a été une de nos premières disputes à RFM avec les nouveaux pros et les anciens, c'est, mm-hmm, qu'on s'est retrouvé avec des calendriers horaire en disant tel titre passe à telle heure, et quand on demandait pourquoi, on disait c'est parce que c'est là que les gens écoutent le plus.
Ouais.
Et donc on avait une liberté toujours dans la playlist, sauf certains titres qui devaient passer à certaines heures et qui étaient matraqués. Voilà. Alors certains étaient très bons, d'autres étaient quand même très discutables,
mm-hmm,
à mon avis,
ouais,
et on n'avait plus cette liberté-là.
J'ai quelques échos par rapport à l'actualité. J'aimerais bien avoir quelques mots de Pierre-Brice Leban à propos de Christophe. C'était, tu aimais bien, il faisait partie de ton univers musical, Christophe?
Oui, j'aimais beaucoup. Puis sa chanson Aline, en plus le prénom Aline est pour moi extrêmement important, donc c'est une chanson qui a dans ma vie une place un peu à part. Mais oui, j'aimais beaucoup Christophe, enfin, j'aime toujours ce qu'il a fait. Aline, évidemment, qui était très connue.
Ouais.
Les mots bleus et la reprise là, de Bachoum de tout à l'heure,
ouais, ouais,
était sublime. Il a écrit des très belles choses, Christophe. Ouais. Et puis c'était aussi un authentique, c'est-à-dire auteur, compositeur, musicien, créatif, voilà. Il a eu des succès beaucoup plus que d'autres, des gros succès, mais il n'est jamais vraiment rentré dans le
système,
dans le showbiz, dans l'univers un peu artificiel. Ouais.
Et puis chacun de ses passages médias, quand on le voyait, on sentait que Christophe était quand même bien dans son univers, bien perché, de la nuit, ce bidouilleur, des fricheurs aussi, parce que je crois qu'il écoutait des trucs assez extrêmes aussi dans ses choix musicaux.
Oui, c'est en fait, je dis que c'était vraiment... Il avait sa vie à lui. Il y a encore quelques chanteurs comme ça de l'époque, comme je sais pas, Gérard Manset, ou des gens qu'on voit jamais, qui sont des purs musiciens et pas seulement des produits un peu préfabriqués.
Mmh.
J'ai l'impression, c'est un côté positif peut-être, j'ai l'impression que ça revient. Ces vrais chanteurs, ces vrais musiciens, qu'il y a eu un moment où ça s'est peut-être un peu perdu avec des trucs calibrés.
Mmh.
Il y en a toujours, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment une génération de jeunes ou de moins jeunes qui arrivent avec de l'originalité, avec des personnalités, avec de l'épaisseur.
Ouais.
Et c'est plutôt rassurant, je trouve.
On peut s'en rendre compte d'ailleurs, alors, dans cette période, on voit pas mal de publications Facebook de différentes formations. Je pense notamment à celle que j'ai découvert toujours, là, je connaissais pas, mais je pense que toi, oui, les Goguettes, cette formation
qui
a mis cette chanson.
C'est
génial de reprise de Brel
Goguettes,
Vesoul.
C'est merveilleux.
Hein, c'est fantastique.
Oui, c'est ça, Vesoul. Ouais. Mais là aussi, Vesoul, ça vient de les faire exploser aux yeux du grand public.
Oui,
ils chantent depuis, 5-6 ans facile,
ouais.
Et ils ont des textes alors toujours très drôles et parfois assez forts. Il y en a un que je passe de temps en temps qui s'appelle Tu mets ton voile,
ouais,
et qui est sur la chanson Tu vas au bal de Renaud.
D'accord.
Et c'est une discussion entre un type qui dit à la femme voile-toi et l'autre qui dit bah non, je me voile pas, hein, ça fout. Et le texte est magnifique. Oui, ils sont très drôles et c'est des vrais musiciens, des vrais chanteurs. Ils ont une super voix. Non, c'est fabuleux, les Goguettes.
Ah, c'est superbe. Les Goguettes en trio mais à quatre, je crois. C'est ça, la totalité de. Non, on vous conseille.
Ouais, trois mecs et une nana.
Ouais, d'aller voir ça parce qu'en plus, ils sont en train de faire un carton là, avec leur vidéo postée. Là, c'est absolument splendide. Et voilà,
donc, ah oui, Vesoul, hein, t'as voulu voir le salon, on a vu le salon. Ouais, t'as voulu voir le balcon, on n'a pas le balcon.
C'est super bien écrit, c'est fantastique. Et c'est une occasion, comme ça, une démonstration que tous ces groupes, ils existent, ils étaient là avant, ils sont là maintenant. Et puis on verra après, parce que j'imagine qu'après cette période, la créativité, la chanson française aussi, ben on va voir ce qui va s'y passer par rapport à tout ça, Pierre-Brice.
On va voir ça, ouais, on va voir ce qui va arriver. C'est assez passionnant de voir c'est un peu comme du jardinage, quoi, des jeunes pousses, hein, t'entends un premier titre, ça te prend l'oreille, tu dis, oh, c'est bien, qu'est-ce que c'est? Puis petit à petit, tu vois le chanteur ou la chanteuse devenir un peu plus professionnel, les arrangements, les machins s'affirmer sur scène.
Ouais.
Je trouve ça assez passionnant.
Ouais, tout à fait, ouais. Bon, et coup de cœur, tu m'as parlé de Leïla Wissou, c'est ça?
Leïla Wissou, je ne sais pas si on dit Wissou ou Wissoud.
Il y a un D à la fin, moi je dis Wissoud. D'accord, tout à fait, d'accord. Leïla Wissoud, alors, qu'est-ce que tu peux nous dire? Parce que je te propose, comme c'est ton coup de cœur actuel, peut-être de l'écouter d'ici quelques minutes, d'ici quelques secondes.
Ah bah écoute, avec plaisir. Ouais. Je t'avais envoyé dans les chansons que tu me demandais, là, je t'en ai mis une de Leïla Wissoud.
Ouais, je l'ai sous les yeux.
Alors, je ne sais pas grand-chose d'elle. Je l'ai découverte avec une chanson adressée à ses parents qui ont divorcé, et principalement à son père. Et où elle lui disait à quel point ça l'avait rendue malheureuse, de façon très poétique. Et je me suis dit, je serais le père de cette gamine, j'entends une chanson pareille, je crois que je me mets à genoux et je lui demande pardon. Ouais, oui. Et puis il y a une chanson après qui est très drôle, s'appelle La Vieille, où une vieille dame doit rentrer en maison de retraite, sauf qu'elle n'a pas du tout envie, donc elle part avec des bouteilles d'alcool. Et ils finissent par chanter la bite à Dudule dans la maison de retraite. La chanson est très sympa. Et puis les textes sont très bien écrits. Voilà, donc elle est lyonnaise, d'après ce que je sais. Elle est toute jeune. Je pense qu'elle a le même âge que Pomme. Donc elle doit avoir 23-24 ans.
D'accord.
Elle tourne seule avec une guitare pour l'instant, avec parfois un musicien. Et elle a sorti un album live qui était un peu improvisé et un vrai album studio qui s'appelle Auguste et qui est fabuleux.
On continue évidemment à suivre ces aventures de Leïla Wissoud et de toutes ces chanteuses et chanteurs avec l'émission de Pierre-Brice Lebrun et sur les ondes de radio MDM. Est-ce que la Belgique te manque, Pierre-Brice?
Oui, un peu. Oui, c'est vrai que ça me manque un peu. Je suis allé à Bruxelles avec mon épouse en décembre. On a eu une bonne idée. Et ça me manque un peu. Alors, ça fait longtemps que j'ai quitté la Belgique, mais le côté culturel, gastronomique de la Belgique me plaît bien. Il y a aussi très bons chanteurs en Belgique.
Oula,
Angèle, évidemment, mais il y en a des beaucoup moins connus que je passe aussi de temps en temps.
Ouais. Sans parler des Arnaud et autres grandes filles.
Ah bah Arnaud, par exemple. Il y a Pierre Rapsat aussi, qui est très peu
Pierre
connu. Qui est très peu connu en France, malheureusement, qui a des textes et des musiques sublimes, qui est décédé aussi, lui, il y a quelques années. Non, il y a des choses sympas qui se passent.
Merci beaucoup, Pierre-Brice.
Merci à toi, Jeannot. Bonne émission, bonne journée à tous.
Ouais, et au plaisir de te recroiser au marché Saint-Roch ou ailleurs, Pierre-Brice, le plus rapidement possible. Espérons-le. Leïla Wissoud, la farce, le coup de cœur de Pierre-Brice Leban sur les ondes de radio MDM. À Dichat, Pierre-Brice.
À Dichat, salut.
Et bien que je le tente une fois, traîner ma gueule sans la cacher, un verre en main les autres fois, quand le micro sent la nausée. Je vais parler et vous vous ferez rien. On va pas encore se le cacher, sur scène on n'est pas plus malin, mais vous êtes censé la fermer. Si je suis jolie, c'est que je suis de loin, si je suis loin, c'est que je suis surélevée. Physiquement, ça compense rien, mais c'est plus simple pour cracher. Allez Loulette, c'est ton moment. T'as rien à dire mais tu le fais bien. T'as qu'à sourire avec les dents, puis on applaudit à la fin. Quand tu t'énerves, c'est rigolo. Et quand tu pleures, c'est émouvant. T'as pas réinventé le tableau, mais ça il faut le laisser au grand. Au seul à ton apéro, à la buvette, ils sont contents. Tu dis des boîtes, boîtes, des gros mots. Et bordel, il est où le blanc? Valson si a que ça pour se nourrir. Ça nous fera les pieds entre temps. Je vous aime pas, c'est encore pire. Je préfère vos sourires à mes dents. Je suis en colère un peu partout et je m'adresse jamais aux bons gens. Chanter, ça change rien du tout. Et je m'en rends compte que maintenant, imaginez la fin de la farce. Pour le charlot de l'engagement, que le point levé nous terrasse alors qu'on n'a rien mis dedans.
Thank you.
des zoophiles et Molière dit les fiscales. Quand les littéraires nous enfilent, on sent mieux passer la morale. Maintenant plus besoin de subterfuges, plus de fourmis et plus d'avares. Les cigales chantent le déluge, mais n'engueulent jamais l'arrosoir. Allez Loulette, c'est ton moment. T'as rien à dire, mais tu le fais bien. T'as qu'à sourire avec les dents, puis on applaudit à la fin. Quand tu t'énerves, c'est rigolo, et quand tu pleures, c'est émouvant. T'as pas réinventé le tableau, mais ça il faut le laisser aux grands. Aux sultes, à ton apéro, à la buvette, ils sont contents. Tu dis des poètes, poètes et gros mots. Et bordel, il est où le blanc? La 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 la. Faites son sillac, ça pour se nourrir. Ça nous fera les pieds entre temps. Je vous aime pas, c'est encore pire. Je préfère vos sourires à mes dents. Je suis en colère un peu partout, et je m'adresse jamais aux bons gens. Chanter, ça change rien du tout. Et je me rends compte que maintenant, imaginez la fin de la farce. Pour les charlots de l'engagement, que notre point levé nous terrasse, alors qu'on n'a rien mis dedans. En gros c'est un pardon sincère d'une lâche révoltée qui en criant sur son parterre s'applique à se pisser sur les pieds.